Chers bien-aimés, nous allons parler du livre d'Exode. D'abord, le titre. Le titre Exode vient du grec exodos qui signifie sortie, départ. Le titre Exode a été utilisé par les traducteurs de la Bible latine, la Vulgate, et par l'auteur juif Philon, un contemporain de Jésus, et par la version syriaque de la Bible. La Bible hébraïque a un titre différent du second livre. Elle utilise les deux premiers mots du livre en hébreu, Ve'ele Shemot, voici les noms de. La même expression se retrouve dans Genèse 46:8 qui donne la liste des personnes entrées en Égypte avec Joseph, voire la répétition de la même phrase dans Exode 1:1. La correspondance du langage d'Exode avec celui du livre de la Genèse confirme que le livre d'Exode n'est qu'une continuité de l'histoire de Dieu avec les patriarches racontée dans la Genèse. Le livre d'Exode sert de transition littéraire entre le livre de la Genèse et le reste des livres qui forment le Pentateuque. Le livre de Lévitique, Nombre, Deutéronome, on peut voir à l'introduction au livre de la Genèse. Parlons de l'auteur et de la date de rédaction de l'Exode. Plusieurs affirmations contenues dans le livre confirment que Moïse en est l'auteur principal. En outre, Josué 8:31 fait référence à Exode 20:25 et parle des événements de l'histoire sacrée écrits dans le livre de la loi de Moïse. Le Nouveau Testament considère Moïse comme l'auteur des événements de l'histoire du peuple de Dieu relatés dans l'Exode. Les témoignages internes de la Bible, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament, confirment l'authenticité mosaïque du livre de l'Exode, malgré les réticences des tenants de l'hypothèse des sources concernant la rédaction du Pentateuque. Parlons de la chronologie. C'est dans 1 Roi 6:1, l'Exode, c'est-à-dire la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, a eu lieu 480 ans après la quatrième année du règne de Salomon sur Israël. Comme la quatrième année du règne de Salomon correspond à l'an 966 avant Jésus, plusieurs affirment que l'Exode a eu lieu vers 1446 avant Jésus-Christ. Les 300 ans mentionnés dans Juges 11:26 confirmeraient cette date. En outre, la chronologie égyptienne confirme aussi que les pharaons Toutmès III et son fils Amenhotep II régnaient pendant la période de la sortie d'Israël de l'Égypte. Par contre, la mention du nom Ramsès dans Exode 1:11 a poussé plusieurs chercheurs à conclure que c'était plutôt les pharaons de la 19e dynastie égyptienne, à savoir Séti I, et que son fils Ramsès II qui seraient les pharaons de l'Exode. En outre, les traces archéologiques des cités cananéennes détruites au XIIIe siècle font penser à la possibilité de l'invasion des Canaan conduite par Josué. Ces données ont poussé plusieurs chercheurs à placer la sortie des Israélites de l'Égypte vers l'an 1290 avant Jésus-Christ. Toutefois, si plusieurs cités cananéennes avaient été détruites au XIIIe siècle, rien ne prouve que les Israélites en étaient l'auteur. Les invasions et destructions des villes étaient communes dans l'Antiquité. En outre, l'apparition du nom Ramsès dans Exode 1:11 serait probablement une addition explicative ultérieure, comme c'en était le cas dans Genèse 47:11. Les arguments pour changer la date de l'Exode de 1446 à 1296 avant Jésus-Christ ne sont pas décisifs. Alors, parlons de l'itinéraire de l'Exode. Trois itinéraires possibles ont été proposés concernant le départ d'Israël de Pitom et de Ramsès. Le premier itinéraire est celui qui fait passer Israël par le nord, à travers le pays des Philistins. Le second fait passer Israël par le centre du pays, à l'est, à travers le désert de Sinaï et de Beersheba. Le troisième fait passer Israël par le sud, par la côte est du Sinaï à l'extrémité sud de la péninsule. La route du sud est possible parce qu'elle correspond au nom des sites indiqués dans Exode. Toutefois, les chercheurs ne parviennent pas encore à indiquer avec précision l'endroit où les Israélites avaient traversé la mer Rouge. Parlons maintenant de thèmes et théologie de l'Exode. Le livre d'Exode nous donne la fondation théologique essentielle sur la personne et les noms personnels du Dieu d'Israël, sur ses attributs, son œuvre du salut, sa loi et la propre adoration de sa personne. Le livre d'Exode parle aussi de l'appel de Moïse, de sa médiation à travers à Sinaï dans l'établissement de l'alliance entre Dieu et Israël. Le livre d'Exode décrit le commencement du sacerdoce lévitique et le rôle du prophète. L'autorévélation du nom de Dieu, le Seigneur, dans Exode 3:6 et 33:34 donne une connaissance précieuse sur sa nature en relation avec son peuple. Le Seigneur est le Dieu présent avec son peuple. Sa présence implique toujours la manifestation de ses attributs principaux. Sa justice, sa vérité, sa miséricorde, sa fidélité et sa sainteté. Ainsi, selon Exode, celui qui connaît le nom du Seigneur connaît son caractère, sa personne. Mais dans le livre d'Exode, Dieu se présente aussi comme le Dieu qui est maître de l'histoire. La souffrance d'Israël causée par la cruauté de l'Égypte n'échappe pas à sa seigneurie. Pharaon et son peuple, ainsi que les enfants d'Israël, tous seront témoins de la manifestation de la sainteté et de la gloire extraordinaire de Dieu visible par son œuvre de délivrance en faveur d'Israël. La délivrance d'Israël de la servitude égyptienne ainsi que la conclusion de l'alliance avec le peuple représente la réalisation de la promesse faite par Dieu à Abraham et au reste des patriarches. L'alliance des Sinaï confirme la fidélité de Dieu à ses promesses. Le livre d'Exode introduit donc la réalité de Dieu comme le sauveur de son peuple retenu en esclavage par une nation plus puissante que lui. Le Seigneur est celui qui rachète son peuple. Ce thème est visible à travers le développement du livre de l'Exode. Premièrement, le Seigneur est celui qui rachète Israël entre les mains de Pharaon. L'instauration de la Pâque confirme le rachat du peuple à travers l'immolation de la brebis pascale. Mais le Seigneur rachètera encore Israël de la folie de l'idolâtrie du veau d'or. L'apôtre Paul considère l'agneau pascal comme un type qui trouvera son accomplissement à travers la mort sacrificielle de Jésus-Christ. En effet, Jésus est présenté par l'évangéliste Jean comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Le livre d'Exode sert aussi de fondation de la morale et de l'éthique biblique. En révélant son caractère comme le Dieu juste, saint et miséricordieux, en donnant les 10 commandements à son peuple et en les développant dans les livres de l'Alliance, Dieu montre à son peuple comment vivre devant sa présence et devant la présence des autres nations de la terre. Le livre termine par l'explication du rôle du tabernacle construit au milieu du peuple. La théologie du tabernacle enseigne au peuple de Dieu la raison de son existence, c'est-à-dire adorer et glorifier Dieu. Au travers du tabernacle, le Dieu omnipotent, immuable, transparent, le Seigneur de l'univers s'engage à habiter, à tabernacler avec son peuple, révélant ainsi la miséricorde de sa proximité. Le Seigneur n'est pas seulement le Dieu d'Israël, il est aussi le Dieu de l'ensemble de l'univers. Tous ces thèmes théologiques importants sont imbriqués dans les narratifs qui parlent de l'action puissante du Seigneur pour son peuple à travers Moïse. En effet, Moïse est le serviteur par excellence au travers duquel Dieu va libérer son peuple de l'esclavage égyptien, constituer Israël en une nation unifiée sous l'Alliance, établir à travers la royauté israélite sa royauté universelle. En effet, la vraie raison de l'élection des patriarches et de la formation d'Israël en une nation sacrée, c'est qu'à travers eux, toutes les nations de la terre puissent expérimenter la bénédiction du Seigneur. Jésus-Christ se déclare être l'accomplissement des saintes Écritures, car à travers sa mort et sa résurrection, toutes les familles de la terre parviennent à la réconciliation avec Dieu, la seule vraie bénédiction. Jésus-Christ est donc l'accomplissement de la médiation entre Dieu et l'ensemble de l'humanité. La médiation mosaïque entre Dieu et Israël servira de modèle pour la médiation universelle de Jésus-Christ.